va passer la parole pour la suite de cette deuxième ronde à d'abord, dans l'ordre, Monsieur Bouchard.
D'abord, je m'excuse, je dois partir à 3h45, donc pour une des rares fois de ma carrière, je laisserai le dernier mot à des éthiciens. pour l'anniversaire, ça semble approprié. Oui, oui, je vous en prie.
Ça fait partie des conjonctures dont on parlait ce matin.
Donc, tout à l'heure, j'ai terminé en disant qu'il y avait une espèce de dilemme pour la philosophie, l'éthique environnementale, que soit elle devait se replier sur une éthique anthropocentrique environnementale ou pas nécessairement se réduire à une philosophie des sciences, mais du moins s'intéresser beaucoup plus à la philosophie des sciences qu'elle ne voudrait le faire habituellement. Là, pour mes 2 minutes 30 qu'il reste, je veux vous suggérer que l'éthique anthropocentrique environnementale qui reste devra elle aussi se concentrer sur la philosophie des sciences, mais pour des raisons sérieuses. Donc, l'éthique anthropocentrique, là, il y en a plusieurs sortes, je ne vais pas les épuiser maintenant, mais disons qu'on parle, et je suis bien conscient, là, du... Ici, ce n'est pas juste une défense du naturalisme que je veux faire, ce n'est pas ça le but. C'est l'idée que, encore une fois, les entités sur lesquelles la réflexion éthique veut se porter ne sont pas encore, je dirais, complètement déterminées. Et donc, il y a un problème de référent. Il est possible de faire de l'éthique, bien sûr, en disant, en présumant cet état de fait, voici ce que nous pouvons dire. Ça, c'est compréhensible et c'est valable. Mais là, je veux chatouiller le fait à quel point l'état de fait ici est encore controversé, même si on se replie à un niveau anthropocentrique. Donc, le problème, c'est pas un problème nouveau, c'est le statut de l'espèce. Donc, disons qu'on s'intéresse au bien d'un autre être humain, pour faire simple. Donc, on présume certaines propriétés à être humain. Dans les perspectives environnementales, habituellement, ce qu'on suggère, c'est pour le bien de notre espèce. Donc, au-delà de mes plaisirs personnels, individuels, à ce moment-ci, on s'intéresse au bien des êtres humains dans des générations à venir. Donc, ce qui est supposé, c'est qu'on s'intéresse à Homo sapiens, en quelque sorte. Mais là, il y a un problème, bien sûr, c'est comment allons-nous déterminer cet objet que nous souhaitons favoriser à moyen terme? Je ne parle même pas à long terme. Donc, à moyen terme, un des problèmes, c'est que on ne sait pas vraiment c'est quoi une espèce. Là, je ne parle pas juste d'Homo sapiens, mais je parle de Populus tremuloïde ou de Vibrio fischeri ou une autre espèce. Il y a encore des débats profonds sur comment déterminer les frontières d'une espèce, la portée d'une espèce, l'adhésion à une espèce, au-delà de l'agrégation des organismes individuels. Il me reste 30 secondes. L'autre problème, c'est que si on s'intéresse au bien d'une espèce à moyen terme ou à long terme, on parle de son potentiel évolutionnel. Qu'on le veuille ou non, on parle de l'aspect dynamique des espèces au cours du temps. Or, s'il y a une chose qu'on sait des processus dynamiques, c'est qu'ils ne seront pas dans le même état que nous sommes en ce moment. D'accord? Donc, si on s'intéresse au bien d'Homo sapiens, je ne vous dis pas qu'il faut être fataliste et juste rien faire pour protéger l'environnement, bien au contraire. Mais c'est qu'en quelque sorte, on le fait pour des raisons qui sont complètement orthogonales au potentiel dynamique de notre espèce. Parce que le potentiel dynamique de notre espèce, c'est peut-être d'imiter le méchant dans Moonraker et de créer une espèce d'arche pour l'espèce qui préserve la diversité et de l'envoyer dans l'espace. C'est peut-être de copier des semences humaines, les envoyer loin dans l'espace. Vous voyez un thème récurrent. C'est que la vie ici, on ne peut pas prédire ce qui va se passer ici, on ne peut pas prédire le potentiel évolutionnaire de notre espèce. Donc, de se préoccuper pour des considérations environnementales du potentiel dynamique de notre espèce, c'est en quelque sorte faire fi de notre incapacité à prédire ces interactions évolutionnaires-là. Donc, et je vais terminer, puisque je dépasse mon temps moi aussi, en disant, c'est évident qu'il y a une place pour l'éthique environnementale, mais je dirais, elle ne doit pas sous-estimer qu'elle est très loin de ce que l'éthique normale fait. Donc, en gros, c'est ça. C'est que si vous voulez un projet d'éthique environnementale sérieux, en quelque sorte, pardonnez-moi, c'est tout. Je dirais qu'il va tenir la route face à des états de fait qui sont profondément, sans commune mesure avec des états de fait avec lesquels on est habitué de traiter. Il ne faut pas se surprendre si elle est radicalement différente. Et là, je ne dis pas qu'elle sera nécessairement biocentrique, loin de là. En fait, je ne crois pas qu'elle sera biocentrique. Mais il ne faut pas s'attendre à ce qu'elle corresponde à notre tradition éthique traditionnelle. Merci.
Merci. Donc, dernière intervention de la table ronde.
OK. Je vais peut-être commenter deux points qui ont été soulevés par les copanélistes. D'abord, sur ce que Frédéric vient de dire, il y a la question, si j'ai bien compris, il y avait un soulèvement de la question de qu'est-ce que c'est être un bénéficiaire parce que dans le fond, ce qu'on demande quand on pense en termes anthropocentriques, c'est qu'est-ce qui va être bénéfique pour les générations futures d'êtres humains. Et il me semble qu'il y avait la suggestion que ce sens-là d'être un bénéficiaire devait être interprété en termes évolutionnaires. Et ça, je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain que bénéficier à l'espèce humaine à long terme, c'est nécessairement... Ça peut se réduire, en tout cas, en des termes de maximiser la fitness de l'être humain. Il me semble qu'il y a d'autres dimensions dont il faudrait tenir compte. Peut-être que celle-là est importante. Et ces dimensions-là, ben, l'éthique a joué un rôle important pour les ajouter. J'imagine que ce n'était pas nécessairement quelque chose avec lequel tu ne serais pas d'accord. Deuxièmement, sur les idées à propos du design, ça me ramène un peu à l'enjeu du naturel opposé à l'artificiel que j'ai soulevé dans ma première intervention. Et souvent, Rabat a mentionné la question de est-ce que c'est artificiel, est-ce que c'est naturel, cette manière-là d'habiter l'environnement. Il y a eu, à un moment donné, il disait, ben, quand il est temps d'habiter, de se construire une maison, ben, la question de la wilderness ne se pose pas. C'est sûr qu'on va transformer l'environnement. Mais ensuite, il y avait l'idée que certains bâtiments sont plus en rupture avec la nature que d'autres, que certains bâtiments sont construits avec des composantes naturelles, en supposant que d'autres, c'est composé de matériaux artificiels. Donc, une question que j'aimerais soulever, c'est que quand on pense en termes de naturel opposé à artificiel, il semble qu'on se retrouve toujours dans une situation où on doit établir un seuil entre... Parce que dans le fond, ce qu'on a en réalité, il me semble, c'est simplement un continuum de plus ou moins d'interventions humaines. Si on définit naturel, artificiel comme ce qui implique l'intervention humaine et naturel par opposition, ben, on a un continuum et il y a le problème d'établir un seuil. Et il me semble que très souvent, quand on a des continuums et qu'on cherche à établir des seuils, ben, les seuils finissent toujours par être arbitraires. Donc peut-être que ma proposition, ce serait plus d'essayer de trouver une autre manière de poser ces problèmes-là. Au lieu de les penser en termes de naturel, artificiel, déterminer, changer d'objectif et trouver un nouvel objectif qui remplacerait l'objectif d'être naturel défini au sens de non-artificiel. Peut-être qu'il y a un autre sens de naturel qui serait plus pertinent ici. Donc, voilà.
Merci beaucoup. Rabat, je veux quand même te laisser réagir oui. Tout ça avant de donner la parole à...
Oui, je vais répondre d'abord à ton interrogation. Un oiseau qui construit son nid, il produit quelque chose qui n'est pas là. Donc, la question de l'habitat ne se pose pas. On habite la terre, on habite la nature. Donc, quelque part, le problème, il se situe dans ce que tu as toi-même d'ailleurs mentionné plusieurs fois tout à l'heure. Si je ne me rappelle plus, la surproduction ou les excès de toutes plein de choses. Ce sont ces problèmes d'excès qui nous amènent par la suite donc à des fois une rupture complètement totale de vis-à-vis de la nature. Prenez juste aujourd'hui, je lisais tout à l'heure un livre sur les environnements pour enfants. Un enfant qui naît aujourd'hui dans l'hôpital Sainte-Justine, il vient au monde dans un environnement complètement artificiel. L'air qu'il respire, il est traité. La chaleur est traitée. Le lieu où il est traité. Les vêtements, tout est traité. Il sort de l'hôpital, il rentre dans un habitacle de voiture. Tout est traité. Il rentre dans sa maison, tout est traité. Donc il y a quand même cette séparation presque totale avec la nature. Donc j'ai montré les premiers exemples d'habitations qui sont quand même construites dans la nature, mais ne sont pas en totale rupture avec la nature. Donc il y a comme des interstices quand même qui permettent quand même à la nature d'être toujours en lien avec, d'une certaine manière, avec la nature. Donc c'est plus dans ce sens. Donc il ne s'agit pas d'opposer la nature versus l'artefact ou l'artificiel, il s'agit d'habiter, mais comment habiter? D'une façon modeste, d'une façon qui a de l'allure. C'est plus dans ce sens.
Mais avant de passer donc la parole pour les questions, permettez-moi juste de faire un petit commentaire pour synthétiser les choses. Je ne sais pas si elle va vraiment la synthétiser, mais dans mon esprit, ça permet de faire des liens. Ce que tu es en train de présenter avec tes images, avec ton propos, c'est l'architecture vernaculaire comme une réponse optimale à un environnement.
C'est un exemple.
Mais cette architecture vernaculaire donc, serait dans ce continuum, dans cet spectre entre naturel et artificiel, un bon compromis. Le problème, c'est que nos métiers existent justement parce qu'on envisage l'environnement comme un objet à projeter et non pas à répéter par une série de rituels qui nous permet de reconstruire nos villes et nos maisons selon les traditions millénaires. Et dans ces projets, il y a une base cognitive, donc une analyse des problèmes qui nous confronte à cette complexité dans la chaîne causale, à cette complexité dans les échelles temporelles et d'espace, et donc qui nous laisse finalement face à un problème d'évaluation de ce qui est bon ou de ce qui est pas bon, que l'on essaie de pouvoir résoudre au crayon, en venant partager ici nos peines comme praticiens de l'environnement. Moi, ce que je me demande, c'est si dans ces ponts entre l'éthique plus anthropocentrique ou l'éthique éventuellement environnementale, il n'y a pas plus de similitudes qu'on le croit, en ce sens que c'est vrai que l'on voit la disproportion des échelles, de la complexité des enjeux environnementaux, mais en même temps, cela, on le voit justement parce qu'on se le permet de les représenter de cette manière-là. Peut-être les problèmes humains sont tout aussi complexes, tout aussi difficiles à saisir, mais on a déjà une habitude à les définir d'une certaine manière qui nous permet de les travailler d'une manière beaucoup plus confortable par rapport à des cadres théoriques que l'on est plus habitué à utiliser. Et d'ailleurs, c'est un point qui revient dans l'article de Andrew Light, dans le numéro spécial et d'ailleurs dans la partie consacrée à éthique environnementale, dans lequel il présente ces deux scénarios. Le scénario d'un travail pour reformuler les cadres conceptuels de l'éthique pour le rendre plus approprié aux questions environnementales. Mais en même temps, ce travail-là prend beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, alors que les décisions doivent être prises aujourd'hui par des décideurs qui sont face à des dilemmes pour lesquels on a difficilement des balises, des points de référence fiables. Donc, disons que la table ronde et la conférence initiale font écho à ce numéro que je vous invite vraiment à lire.